Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Connais-tu ça, le show du Grand Nick?
Ouais, ça me dit de quoi, là, mais...
Le show du Grand Nick, ça, c'est le show qui s'écoute mieux sur le 5G, là.
Ah oui, tu sais, parce que si tu tombes dessus, c'est comme si tu ferais 5G. Hey, t'es dommage chanceux, tu trouves le show du Grand Nick.
Le cœur l'est pas, il est grand comme le complexe G.
Vous l'avez tué.
Non. Je suis ton père. I am the father.
Ah, il est pas tout seul, dans cette équipe-là?
Non, non, il y a un gars, pis une girl. 5G.
Grand quoi?
Nick. Un gars des Backstreet Boys, lui. Mais en grand. Avec une barbe.
Moins beau. Piu, piu, piu. Ça manque d'effets spéciaux. Piu.
Dum, dum, dum. Mesdames et messieurs, voici le show du Grand Pic.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce show du Grand Nick du 20 septembre 2022. Il fait une journée grise à Lévis aujourd'hui, 11 degrés Celsius, température ressentie 9 degrés Celsius. On ressent plus frette que c'est en réalité. Demain, ça devrait être plus beau, pareil, plus beau, ça devrait être mieux. Par contre, 17 degrés Celsius avec un ciel variable. Jeudi, faible pluie, 17 degrés Celsius. Nuageux avec des éclaircies pour vendredi et 13. Et un beau week-end aux alentours de 17-18 avec du soleil et quelques passages nuageux. Ça s'annonce bien pour la fin de semaine. Salut Kat.
Allô.
Salut
allô,
JD. Le
salut.
Retour de
ouais,
l'enfant
ben oui,
prodigue
enfin,
derrière
enfin.
La console.
Après toutes ces semaines, à m'ennuyer de vous, me voilà de retour.
Écoute, c'est parfait. Tu vois, je peux juste parler. J'ai plus à m'occuper de la console. En même temps, ça fait
on
énormément.
On commence à avoir des belles transitions. Là.
Ouais, c'est ça.
Au retour
voir
de
quelqu'un
pause,
qui c'est... sait plus comment ça marche que moi. Bien que si ma mémoire est bonne, c'est moi qui l'ai montré. Mais bon, il faut croire que l'élève a dépassé le maître. Et ben, on continue ce soir en cette... Cette campagne électorale, on fera pas de nouvelles de Lévis tout de suite, on va se garder ça pour demain. De toute façon, il y en a pas tant des nouvelles de Lévis. Moi, je vais faire le début du show et vous laisser, vous, auditeurs, avec mes chers acolytes. Mais avant, nous continuons notre série d'entrevues avec les candidats aux élections de Lévis. Et ben, on aime ça les extrêmes ici. Donc, après la candidate du Parti conservateur la semaine dernière, nous avons Valérie Caillouette-Guillotot, candidate de Québec solidaire. Valérie, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ah,
comment
ça
se passe
très
ta campagne?
Bien. Vraiment bien, franchement. Là, on est parti tranquillement, puis là, on est sur une montée. Là.
Ouais, ouais, oh, ben, ouais. Comment tu compares ça? Parce que toi, t'es pas à ta première campagne. Ouais. Ça fait quelques... T'en as sauté une ou deux élections?
J'ai accouché de 4 enfants, puis j'ai fait 4 campagnes.
Oh, OK!
J'essaie de faire ça égal. Fait que c'est ma 4e, là. Puis, c'est complètement différent, là. Ça n'a rien à voir, là.
Ouais, parce que je me rappelle, écoute, on s'était déjà croisés. Puis ça, là, à tes premières campagnes, il y a plusieurs années. Bon, à cette époque-là, c'était les époque où il y avait quoi, 1 ou 2 députés de Québec solidaire?
Ça remonte à loin. Là, quand j'étais étudiante, moi, j'ai fondé Québec solidaire. Là.
Okay.
En fait, j'étais dans l'UFP. On a fondé Québec solidaire en 2006. Puis là, je suis revenue à Lévis, puis j'ai dit, il faut une asso à Lévis. Fait qu'on était une petite gang, puis on a fondé une asso à Lévis. C'était dans les premières asso au Québec. Là.
Mm.
Puis là, est venu les premières élections. Fait que, écoute, on savait même pas là, si on réussirait. Là, Amir Kadir a passé, on capotait. C'était la fin de... Écoute, on cabotait. Là, après ça, François Slavide est arrivé. Là. Ben, écoute, on pensait que c'était ça y est, là, le ciel est arrivé. Mais finalement, ça a tout le temps progressé. Puis là, on avait 10 députés là, à la fin de la session législative. Puis là, on s'enligne vraiment pour plus. Non, ben, on est super positifs, là, sérieusement. Puis sur le terrain, je le vois, là, ben, c'est plate, mais c'est beaucoup les jeunes qui m'arrêtent. Puis là, moi, c'est nouveau pour moi. Là, parce que, bon, ma fille m'a parti un compte Instagram. Mais écoute, aujourd'hui, je suis au cégep, puis là, il m'arrêtait. Je peux-tu prendre un selfie avec vous, madame? OK.
Ah, le madame, fait mal.
Ouais, le madame fait mal. Mais
peux-tu montrer comment changer mon adresse, s'il te plaît?
Oui, c'est ça. J'espère qu'ils ne me mettent pas des petites moustaches de lapin. Là,
Valérie, es-tu en train de nous dire qu'il y aurait des solidaires à Lévis?
Il y en a vraiment beaucoup.
Pas juste
pour
des conservateurs puis des caquistes.
Eh boy, sérieusement, il y en a vraiment plein. Puis c'est un peu pour ça que je fais les campagnes électorales puis que je me décourage pas. C'est parce qu'à chaque fois, ça augmente. Puis surtout, à chaque fois, je rencontre d'autres mondes vraiment trippants. Puis dans le fond, moi, Lévis, c'est comme un rapport amour-haine. Je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai aimé ça être ici quand j'étais jeune. Mais à un moment donné, comme pas mal de monde à 16-17 ans, j'étais plus capable, il fallait que je m'en aille. C'était trop plate. Là. Mm-hmm. On s'entend que la rue Bégin à 9h le vendredi, le soir, c'est mort.
Ouais, manque de nightlife, un peu.
Ouais, du manque de nightlife.
Pourtant, tu sais, de Bégin, Côte-du-Passage, ouais. Tu pourrais... Écoute, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais sur la terrasse de la barricade avec mon frère. Tu sais, moi, je suis pas du coin. Mon frère, c'est la première fois, je pense, qu'il était dans le Vieux-Lévis. Puis là, c'est donc ben hot. Puis là, imagine, tu sais, t'aurais comme 2-3 bars ici. Là, il y aurait un méchant nightlife, mais bon.
Ben non, c'est ça. On rêve. Mais je continue de rêver. Moi, c'est pour ça que je suis là. Puis, dans le fond, je suis revenue à un moment donné. J'ai eu mon premier enfant. Puis là, j'avais envie de retrouver une petite vie tranquille, tout ça. Puis finalement, je me suis installée, mais là, je dis, OK, si je m'installe ici, la condition, c'est que là, je m'implique, puis j'essaie de faire de quoi de le fun, tu sais, puis de faire les choses. Puis là, je me suis impliquée dans des organismes, tout ça, mais Québec solidaire, ça fait partie, dans le fond, de l'implication. C'est juste une poursuite, en fait, des choses. Là. Pour moi, la politique, c'est pas juste une fois aux 4 ans, là, c'est au quotidien, en fait. Fait que je m'implique dans d'autres organismes, tout ça, mais quand il y a le temps des élections, c'est vraiment un moment intense, mais tellement le fun pour rencontrer du monde. Puis là, sur mon comité, tu sais, j'ai Lise qui a 82 ans, qui était à fond à passer des dépliants aux jeunes aujourd'hui au cégep. J'ai des jeunes qui ont 16 ans, qui n'ont pas encore le droit de vote, mais qui sont à fond, eux autres aussi. J'ai un travailleur de la construction, j'ai un prof de cégep, j'ai un travailleur social. T'sais, j'ai vraiment l'ensemble de la société. Là. J'ai quelqu'un qui est sur le BS. J'ai vraiment là, les chômeurs, des infirmières. C'est vraiment impressionnant. Puis là, t'sais, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui nous rejoint, c'est les valeurs. On est écologiste. Depuis toujours. On est féministe. Depuis toujours. On change pas au gré des sondages. On est démocrate depuis toujours. Puis là, on dirait que ça commence à rentrer. Tu sais, c'est comme au début, on rien nous autres. Hein? Les granos, ils doivent tout être en sandales, en bas de laine l'hiver. Puis là, d'un coup, ils commencent à nous regarder. Puis tu sais, aujourd'hui, je voyais le débat au cégep, là, la CAQ, tu sais, ils me rentraient dedans. Mais moi, j'étais contente.
Ouais,
j'étais comme, oh yeah, là, on est sérieux, tu sais. J'étais comme leur adversaire, là. Puis j'étais, yes, tu sais. Moi, c'était positif pour moi, là. J'étais crème, ils nous prennent au sérieux. Ils ont tellement ri de nous, mais là, ça y est, ils nous prennent au sérieux, tu sais.
Ouais, mais tu sais, il y a peut-être des gens qui diraient que la CAQ vous instrumentalise pour justement avoir un adversaire. Adversaire complètement opposé à elle. Et donc, pour marquer les points politiques, c'est pas nécessairement... Comme vous êtes aucunement un danger pour la CAQ, ils sont bien contents de dépeindre Gabriel Nadeau-Dubois et cette axe orange comme un adversaire là, aux politiques plus réalistes de la CAQ.
Ben, je suis d'accord avec toi. Peut-être dans la région, si. Mais à Montréal, sérieux, ça joue dur. Là.
Ouais.
Ça joue vraiment dur sur le terrain. Je suis allée, puis sérieusement, ils ont peur. La CAQ a peur. Là. Fait que, tu sais, je comprends ce que tu dis dans la région, ici, peut-être. Mais pour vrai, il y a des endroits, puis aussi à banlieue de Montréal, là, y a, c'est ça. Ça...
Oui, ben, tu vois, je lisais un article cet après-midi, ils disent même à Rimouski, vous auriez des chances. Il y a une couple de places, là, de villes plus étudiantes, plus jeunes.
Ouais.
Ben, on l'a vu la dernière élection, là, c'est quoi, Sherbrooke, Rouyn-Noranda.
On a montré qu'on n'était pas juste un parti de Montréal. Ouais. Emelise en Abitibi, là, la job qu'elle a faite avec la fonderie Horn, là, c'est extraordinaire. T'sais. C'est vraiment montrer qu'on est capable de défendre notre monde, puis qu'on lâche pas, puis qu'on vient des régions, puis on en est fiers. Fait que, c'est plus vrai qu'on est un parti montréalais. Fait que, tu sais, on se développe. C'est vrai là, qu'on prend de la maturité, puis qu'au début, c'était un peu pic-pic, puis que là, maintenant, tu sais, on s'améliore, on mature, on a un meilleur programme, on a une bonne équipe économique aussi maintenant. Là. Il existe une économie de gauche, tu sais, enfin. Là. On a des propos quand même plus solides en économie qu'on en avait. Fait que, sérieusement, moi, je suis vraiment contente.
Écoute, vous avez même un ancien éditorialiste de la presse. Là.
Ouais.
Écoute, là, si ça, c'est pas...
Un fervent souverainiste. C'est pas un fervent souverainiste. Là, qui...
ben ça, non. J'étais surprise au début. Quand je l'ai vu arriver, Marcel, j'avais des petits doutes, j'avoue. Mais finalement, écoute, il m'a étonné. Fait que je donne son
chaque parti rendu avec son ancien journaliste, ouais. Là, quoi?
Ouais.
C'est
ça.
Ben ouais,
ouais,
ça en prend un. C'est comme, le passage obligé. Écoute, tu parles de Lévis depuis tantôt. Qu'est-ce que Québec solidaire propose de concret à Lévis, de différent de ce que la CAQ nous offre?
Oui, ben aujourd'hui, c'est passé quelque chose d'hallucinant que je pensais pas qu'il arriverait. Pendant le débat au Cégep Lévis-Lauzon, on n'a pas parlé du troisième lien.
Hein?
Je vous jure, là, on n'a pas abordé le sujet.
Pas.
Bon, faut dire que Bernard Drainville jouait sur le banc parce que c'était Martine Biron qui était en avant.
OK, mais
pourquoi?
Mais elle aussi est pro-troisième lien, là, elle a fait. De toute façon, dans CAQ, je pense qu'il faut qu'il fasse une profession de foi en entrant.
C'est ça, mais j'ai quand même l'impression que le vent tourne. C'est-à-dire que le projet du troisième lien, là, c'est comme si au début, il y avait juste nous autres qui disaient que ça n'avait pas d'allure puis que c'était un gros show de boucan, qui coûtait trop cher aux contribuables. Oui, non, mais je parle des partis politiques, là. Je me rappelle justement à la Chambre de communes, au débat à la Chambre des commerces, au débat à la Chambre de commerce, j'étais pas mal tout seul de mon bord à dire non, ça n'a pas de bon sens ce projet-là, on le sait depuis longtemps, trop de gaz à effet de serre, mauvais projet. Si tu rajoutes de plus en plus d'autoroutes, il va juste avoir de plus en plus de chars, puis la congestion routière, elle va juste de plus en plus être pire tout le temps.
Tu as bien expliqué ça au maire, d'ailleurs, j'ai trouvé dans ce débat-là.
Louis m'a regardé avec des grands yeux. Bon. Mais là, aujourd'hui, bizarrement, c'est comme si le projet, là, il essayait de le tasser un peu. De plus en plus, de moins en moins, on en parle, puis là, ils essayent de parler d'autres choses. Là, ils sont tous environnementalistes, là, ils n'ont pas vraiment de programme, pas de chiffres, mais ils sont tous environnementalistes maintenant.
Ben, surtout au cégep.
C'est ça. Mais ils ne parlent plus de troisième lien. Parce que là, ça devient gênant. Parce que là, on le voit, il n'y a pas d'études. Ouais. C'est clair, on le sait maintenant, il n'y a pas d'études. En plus, un matin, ils disaient qu'on n'avait finalement pas la démographie. Lévis, c'est vieillissant, on n'aura pas la démographie pour pouvoir avoir assez d'automobilistes, de toute façon, pour justifier le projet. Fait que là, finalement, d'un coup, bon, bref, ce que nous, on propose, puis qu'on change pas d'idées. C'est un projet qu'on avait déjà entendu, mais qu'à cause d'une guerre justement des maires, ils ont mis sous la table. C'est vraiment un SRB, un service rapide par bus. Il y a des super beaux projets à Lévis, sur le boulevard Guillaume-Couture, avec voie réservée. Le maire fait quelque chose de pas pire là-dessus. L'affaire, c'est que c'est des petits bouts, c'est des tronçons de voie réservée d'autobus. Puis n'importe qui prend l'autobus à Lévis, là, la L1 et L2, pour se rendre à Place Laurier, ben ça jambe rendu au pont. Fait qu'on prend l'autobus, on est bien content, puis à un moment donné, on est pogné dans les embouteillages comme les autres comme en voiture. Fait que là, tu te dis, c'est quoi l'intérêt? T'sais? Fait que ça coûte plus cher, ça prend plus de temps, puis finalement, on est moins confortable. Fait que tu sais, faut que ça soit important, faut que ça soit confortable, efficace, prendre l'autobus. Puis là, il y a deux autres problèmes dont personne ne parle, là, mais le traversier, Seigneur, moi, je le prends tous les jours pour aller travailler.
Je
là.
Sais.
C'est une hérésie. Là. Ça fait 3 ans que ça ne marche pas. Il y a des coupures. On reçoit des messages sans arrêt comme quoi ça ne fonctionne pas. Il y a un problème. Il y a un bruit mécanique.
Écoute, je suis masochiste. Je l'ai pris jusqu'en 2020 puis je ne me suis pas désabonné des alertes.
Mais
les reçois encore. Ça me décourage. J'ai comme de la peine.
Mais non,
pour
c'est
ceux
ça.
Qui sont
à tous les jours, j'en reçois 2-3.
Ah ouais?
Puis là, je peux jamais me fier. Là. Moi, je reviens du travail. Je travaille à Les Moilous. Je reviens du travail. Je peux jamais savoir à quelle heure je vais prendre. Puis là, c'est drôle parce que là, ils ont mis un vieux navire de croisière. Il y a comme un genre de mini-bar avec du tapis, tu sais, on est là, hein? Sauf que les autos, puis ils rentrent pas dessus. Bref, on peut-tu régler ça, sérieusement? Puis c'est pas juste à Lévis, là, c'est la Société des traversées, c'est au Québec, là.
Ouais,
ils ont les mêmes problèmes plus à l'est.
Le FA Gautier, il marche une fois sur deux.
Là, ça, c'est comme la base, on règle les traversiers. Après ça, les ponts. parlons-en, là. Je veux dire, l'entretien des ponts. T'sais, on dirait qu'il faut toujours que ce soit des gros projets qui flashent, là, pour avoir des élections, pour avoir des votes. Sauf que l'entretien de nos infrastructures, elle, pendant ce temps-là, on la fait pas. Mm. Fait que là, ça presse de trouver une façon, n'importe laquelle, mais d'entretenir nos ponts. Parce que, t'sais, on a deux ponts qui sont essentiels. Une fois qu'on a fait ça, puis en plus, on fait un système de transport en commun qui est pas mal plus efficace, là. Parce que là, on s'entend que prendre l'autobus à Saint-Jacques-Chrysostome puis s'en aller au cégep Lévis-Lauzon, ça prend comme une heure, puis ça pourrait prendre 15 minutes en auto. En plus, la passe mensuelle, elle coûte plus cher que le stationnement au cégep. Fait que c'est juste même pas rentable, tu sais. Fait que une fois qu'on fait un projet qui a de l'allure, tu sais, si on prend le tiers du budget, là, même pas là, le quart du budget du troisième lien, puis qu'on le met pour faire un projet vraiment concret de transport en commun, le monde va avoir envie de le prendre. Sérieux, ça peut être le fun de prendre l'autobus. T'es tranquille, tu lis tes livres, t'écoutes ta musique, tu joues à tes petits jeux vidéo, t'es heureux, tu rentres chez vous, t'es relax.
Pour 80 millions ou moins que ça, le transport en commun à Québec et à Lévis serait gratuit. Puis là, ça serait intéressant de le prendre. Moi, ma ville natale de Saint-Jérôme, petite bourgade de 75 000 habitants, a mis le transport en commun gratuit. Et depuis ce temps-là, les autobus sont pleins. C'est un succès total. Puis je suis pas mal certain qu'il y a autant de monde qui ont des voitures. C'est juste qu'ils l'utilisent pas pour aller travailler. Ils la laissent chez eux plus souvent, puis on l'utilise les week-ends.
Je sais pas, là, mais on dirait que ça a été voulu, puis c'est plate, là, mais aujourd'hui, il y avait Mario Fortier, c'est ça, le candidat conservateur dans Chute de la Chaudière. C'est l'ancien président de la Société de transport de Lévis. Puis il était fier de dire à tout le monde que c'était l'ancien président de la Société de transport de Lévis. Mais tout le monde est en train de chialer contre le transport en commun. Ouais. Moi, j'aurais été gênée à sa place. Ouais. J'étais comme, mais voyons, tu sais. Puis c'est sûr que ça, c'est pas juste municipal, c'est beaucoup provincial. Il manque d'argent, puis il manque d'investissement, puis il y a tout un problème là, de redistribution. Là, de
comment ça se fait? Comment t'expliques ça? Que des cinq partis en lice, les seuls qui proposent la gratuité du transport en commun, c'est les conservateurs. Ouais, là, je la comprenais pas.
La première fois, je capotais, là, j'ai même dit à la candidate conservatrice, j'ai dit, t'es ça, parce qu'elle disait au Québec. J'étais comme, vérifie, je pense que c'est à Québec. Là, elle a fait comme, oh! Non, mais tu sais, non, c'est ça. Ils veulent, puis c'est vraiment parce qu'ils veulent lutter contre le tramway, là. Fait qu'ils ont essayé de trouver un tour de passe-passe. Fait qu'ils disent, bon, on veut pas le tramway, mais on va faire la gratuité pour un certain temps à Québec. Puis finalement, ils ont rajouté à Lévis. Mais moi, coudonc, tu sais, tant mieux, je suis d'accord. Bon, parfait. C'est juste drôle qu'ils soient encore plus à gauche que Québec solidaire sur ce point-là, puisque nous autres, c'est 50 % de moins les frais, là. Mais c'est la grandeur du Québec. Fait que, tu sais, bon. Eux, c'est à Québec puis à Lévis. Mais bon, écoute, moi, quand il y a des bonnes idées, je les prends, là.
Bon, de toute façon, c'est elle pas faite, puis c'est loin d'être fait.
Parce que, tu sais, on regarde ça, là, j'habite Lauzon.
Ouais.
Me rendre sur Charest, pas de trafic, ça me prend 40 minutes. Mais il semble qu'un troisième lien, ça me permettrait de me rendre là, en 15 minutes, gros max, 10 minutes, 15 minutes. Il n'y a pas, tu sais, l'idée, puis je pense que c'est le Parti québécois qui l'a proposé d'avoir un transport structurant, un tunnel réservé au transport en commun où on pourrait passer rapidement de centre-ville à centre-ville. C'est pas quelque chose qui serait plus intéressant puis plus structurant que d'avoir plus d'autobus dans le fer à cheval?
Mais je comprends, tu sais, mais c'est juste que l'affaire, c'est que ça va être dans 15 ans puis ça va coûter 6 milliards. Fait que, tu sais, c'est quoi l'intérêt, dans le fond? Oui, OK, je veux aller à Québec sur Charest en 40 minutes, puis là, je vais y aller en 20 minutes. Mais, tu sais, est-ce que vraiment, pour mon confort individuel, ça vaut la peine de dépenser peut-être même plus que 6 milliards dans 15 ans, de faire des tonnes de GES, alors que là, c'est très clair que ce qu'il faut faire, c'est réduire nos GES d'ici 8 ans, là, c'est 2030 que le GIEC le dit, là. Fait que, tu sais, c'est complètement au contraire. Puis, en plus, il y a personne qui nous dit c'est qui va être exproprié, là. T'sais, c'est où qui va être le troisième lien? Il n'y a personne qui est capable de nous dire, là, tu sais. Je voyais Drainville qui disait, c'est la question de l'urne, il faut que vous me donniez un mandat fort. OK, mais dis-nous, c'est qui va être exproprié à Lévis? C'est quelle terre agricole qui va être sacrifiée?
Ouais.
Tu sais, je veux dire, il va être à Lauzon, là. Tu sais, ça se peut qu'ils viennent te dire, excuse, mais ta maison, finalement, il faut que tu l'enlèves, il va avoir un cratère, tu sais, parce que c'est gros,
pas tout
là.
Je suis mon toit, finalement.
Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, fait qu'avant de commencer à nous dire, donnez-moi un vote parce que je vais le faire, ben là, moi, je fais pas de chèque en blanc, là. Tu sais, je veux savoir c'est qui, c'est où, puis comment, tu sais.
Non, effectivement, moi, ça me faisait rire ce matin ou hier, là, où je lisais, c'était au sujet de l'immigration. Bon, est-ce qu'on en reçoit plus, on en reçoit moins? Il dit, ouais, mais là, ça prend des études, puis il faut faire des études pour ça, l'immigration. Ah, OK. Ouais, des études,
ça.
OK.
Ouais,
ah.
C'est ça.
Puis pour dépenser 6 milliards, non?
Tu sais, les premiers 10. À dire qu'il faut faire attention aux fonds publics, puis on est d'accord, puis qu'il ne faut pas trop dépenser, qu'il ne faut pas faire de déficit. Puis là, d'un coup, ils sont capables de jeter l'argent par les fenêtres. Ouais. Je ne comprends pas ça. Ben
surtout moi, qu'il risque d'avoir des dépassements. Là. Ben ouais, il y en a eu, ne serait-ce que pour forer
juste
le fond
le forage.
Du
fleuve,
ben ouais,
pour savoir de quoi on parle.
Ouais. Écoute, moi, mon opinion, depuis la dernière élection, moi, je l'ai dit, il va se faire réélire en 2022 avec ça. Février 2023, il va sortir ses études. Il va dire, ah non, ouais. Finalement, on va y repenser. Ouais, il va l'abandonner un coup qu'il va être élu.
Ouais.
Mais bon, en dehors des enjeux de mobilité, je suppose que vous devez avoir d'autres...
Ouais, vraiment. Mais c'est sûr que...
D'autres projets pour le coin.
Je trouve ça super important de parler de santé mentale, là, parce que personne n'en parle, puis que je trouve que c'est l'enjeu, là, c'est comme l'autre crise qui est devant nous. Moi, j'ai beaucoup de jeunes, puis j'en ai un de 19 ans, puis le COVID, ça a été vraiment tough, là, puis je pense que ça a été tough pour tout le monde. Puis c'est 40 % des consultations chez les médecins de famille qui sont reliées à des problèmes de santé mentale. Fait que, tu sais, quand on parle de désengorger le système, là, clairement, il faut prendre de front la question de la crise de santé mentale. Puis tu sais, oui, quand tu fais de l'anxiété, tu vis quelque chose qui est grave, puis il faut que ton problème soit adressé, mais ça veut pas dire que c'est en allant directement chez un médecin de famille ou pire, à l'urgence. Tu sais, je veux dire, les CLSC, ils ont été prévus, ils ont été conçus pour ça au départ, puis c'était un super beau service parce que tu avais les services de soins de santé, puis les services de santé mentale, puis les services sociaux à la même place. Moi, quand j'avais 20 ans puis que c'était plus difficile, j'allais au CLSC, il y avait un intervenant, j'allais dans son bureau, je parlais, ça faisait du bien. Puis après ça, il me donnait des pistes pour avoir un suivi, pour savoir où aller. Maintenant, t'arrives là, puis là, c'est super compliqué. Ils te renvoient chez vous, ils te disent « appelle telle place, là, le 8-1-1 ». Finalement, ils disent « ah, vous êtes sûr? Ah, vous êtes pas sa bonne rive, votre cellulaire est à telle antenne. » Là, t'es comme « non, mais je prends pas le bateau pour changer de rive, là, je vais pas bien. » Puis là, après ça, ils te disent « ben finalement, allez à l'urgence. » Fait que là, non, tu sais.
Ouais.
Fait que bref, il y a vraiment quelque chose de majeur à faire en santé mentale. Puis dans le fond, c'est des services publics qu'il nous faut. Parce que oui, on peut aller chercher des psychologues, mais souvent, puis c'est comme la même chose avec bien de choses, là, avec les physiothérapeutes, avec les orthophonistes, avec tout ça. Ça va plus vite dans le privé, mais pour ça, il faut que tu aies des bonnes assurances. Mm. Puis c'est vraiment pas tout le monde qui en a. Fait qu'il faut absolument... Puis tu sais, la santé mentale, c'est tout le monde, là. C'est n'importe qui, ça touche tout le monde. Les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, je veux dire, tout le monde, tu sais. Fait que pour moi, à Lévis, c'est une priorité. Puis je pense vraiment qu'agir là-dessus, ça va agir sur le système de santé en général.
Agir là-dessus pour régler la crise, mais agir là-dessus en prévention aussi.
Ah ouais, ben oui.
Moi, juste qu'on a de la misère à investir en prévention.
Ben oui, clairement, clairement, c'est sûr.
Puis au niveau de l'éducation, Valérie, j'aimerais ça, moi, t'entendre un peu là-dessus parce qu'on va en reparler un peu plus tard dans l'émission. Là. Je pense que vous avez aussi des propositions à faire.
Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça me touche. Là. Moi, j'enseigne au cégep puis j'ai plein d'enfants. Fait que je connais à peu près tous les paliers possibles du système d'éducation.
C'est pas facile, hein? Le cégep, là, c'est pas, c'est pas parce que t'as fini ton secondaire que tout va bien, hein, au niveau scolaire.
Vraiment,
puis...
C'est ça. Chaque niveau scolaire a ses défis, c'est clair. À Québec,
petits enfants, petits problèmes. Grands enfants, grand problème.
C'est ça. Mais à Québec solidaire, c'est clair, là, on a toujours été, puis on l'est encore, puis ça ne changera pas. Là. Puis, tu sais, en 2012, je me suis présentée vraiment, c'était vraiment dans le temps là, de la crise, de la lutte contre les hausses des frais de scolarité. Puis c'est une lutte que je suis vraiment contente qu'on ait gagnée, parce qu'aujourd'hui, si les jeunes sont capables de ne pas payer trop cher leurs études, puis on le voit en plus avec l'inflation actuelle, la crise qu'on aurait, si en plus, il fallait que ça coûte le triple comme c'était prévu que ça coûte. On continue à maintenir l'idée qu'il faut un service gratuit, public, accessible pour tout le monde, puis universel, de la garderie, dans le fond, jusqu'à l'université. Là, moi, j'ai une grande pensée pour vraiment tous les niveaux, fait que même la petite enfance, à Lévis, là, c'est un enjeu qui est super important, là, tout le monde le sait, il manque des places en garderie, il manque des places en CPE. Moi, je sais pas combien de personnes je connais autour de moi qui sont désespérées, là, qui ont des poupons, en fait, de 12, 13 mois, puis en bas de 18 mois, c'est l'enfer, on trouve pas. Ça prend, ça urge, là, ça prend des places. Puis je parlais avec la directrice du CPE où va mon fils, puis elle me dit, on en a des projets, on est prêts, mais ça bloque au niveau de la bureaucratie puis du gouvernement. Fait que, tu sais, dans le fond, il faut trouver des terrains, il faut agir rapidement, mais on est capable. Nous autres, on propose d'alléger un peu la structure, on propose des micro-CPE. Fait que ça, dans le fond, ça serait, par exemple, la ville de Lévis. Là, je le sais, là, où travaille mon chum, il y a deux personnes qui ne peuvent pas revenir au travail parce qu'ils n'ont pas de garderie pour leur enfant.
J'ai vécu ça comme employeur aussi.
Fait que là, c'est d'avoir un local. La ville de Lévis met, mettons, à la disposition un local. Puis là, on engage 2 ou 3 éducatrices là, compétentes, certifiées, diplômées. Puis on organise un micro-CPE. Fait que c'est un CPE, mais qui contient 10, 15 enfants, puis qui est chapeauté par un bureau coordonnateur, un peu comme les milieux familiaux le sont.
Ouais,
ça peut être aussi la même chose dans les entreprises. Une entreprise qui vit la même chose peut dédier un local. En plus, on le sait, maintenant, il y a des locaux libres.
Oui, il y a des locaux libres.
Avec le télétravail, tout ça.
Il y a sûrement des incitatifs fiscaux si une entreprise fait ça.
Bref, c'est des solutions simples. Bon, là, je parle du CPE. Après ça, je parle de, évidemment, l'école primaire. Puis c'est la même chose, CPE. On le sait, là, il y a une pénurie, là, c'est clair. Il y a une pénurie d'enseignants. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que, sincèrement, les conditions de travail sont difficiles. Là. On ne peut pas se le nier. Là. Les dernières négociations ont quand même porté fruit, c'est vrai, mais il y a encore un retard. Puis il y a encore des problèmes dans les conditions de travail. Il y a beaucoup, beaucoup de burn-out là, chez les enseignantes. Je dis enseignante parce que souvent, c'est souvent plus des enseignantes. Mais vraiment, il faut agir là-dedans.
Il y a du décrochage aussi. Hein? Il y en a qui quittent la profession après quelques années de pratique. Ouais.
Puis aussi, au niveau de recrutement, tu sais, ça n'a pas de bon sens que les stages ne soient pas rémunérés. Les stages des étudiantes qui s'en vont soit en CPE ou soit dans les écoles ou même en soins infirmiers, ben en fait, encore là, c'est souvent toujours des métiers féminins à prédominance féminine. Ben ces stages-là sont moins rémunérés, alors que les étudiants qui sont en géomatique, en informatique, en animation 3D, eux autres, ils se trouvent des stages en entreprise qui sont rémunérés. Fait qu'il y a vraiment comme une injustice qui est reliée souvent au genre, qui fait qu'on croit que le métier d'éducatrice ou le métier d'enseignante ou le métier d'infirmière, ben ça, c'est une vocation, fait que c'est normal que tu ne sois pas payé pour faire ta job. Ben c'est sûr que tu ne peux pas recruter du monde dans ce
temps-là. Ouais, non, c'est pas...
c'est logique, tu sais.
C'est pas attractif, exact. Là, c'est vrai.
C'est ça. Fait que bon, là, je suis allée primaire. Ouais. Secondaire, c'est la même chose pour recruter, hein. C'est sûr, c'est évident pour recruter. On a aussi parlé qu'on voulait absolument avoir 4 sorties culturelles gratuites par année scolaire. Puis ça inclut le secondaire. Puis c'est important parce que ça stimule aussi le milieu culturel du coin, tu sais. Fait que si les jeunes dans les écoles vont à l'Anglicane ou vont au vieux bureau de poste, vont voir, en tout cas, peu importe, ça stimule hein, en achetant des billets.
Là-dessus, si on revient au secondaire, il y a quelque chose moi, que je trouve complètement aberrant, c'est que quelqu'un qui a un bac en géographie, ou une maîtrise en géographie, ne peut pas l'enseigner. Ça, il prend un brevet de 2 ans de pédagogie pour être capable d'aller enseigner la géographie, par exemple, tandis qu'un prof va avoir 4-5 cours universitaires en géographie, mais va avoir sa liste de papiers de pédagogue puis de gogologue pour être capable pour pouvoir enseigner. Donc, ça, c'est quelque chose que je comprends pas qu'on permette pas. Puis, des cours de pédagogie, ça fait pas nécessairement de toi un bon prof.
Je suis tellement d'accord. Sincèrement, c'est une réforme qui a été faite autour de 95-96. J'ai pas mal étudié les réformes en éducation. J'ai fait mon doc là-dessus. Puis, avec tu me touches. Sérieusement, c'est une réforme qui a aucun bon sens qui a été faite justement à ce moment-là, qui fait qu'avant, une personne qui avait, par exemple, un baccalauréat en histoire pouvait faire une année de pédagogie, puis après ça, pouvait aller enseigner l'histoire au secondaire. Fait que ça faisait que clairement, il y avait de la crédibilité quand il arrivait dans la classe. Ils connaissaient l'histoire. C'est plate, là, mais les jeunes là, sont intelligents, puis ils le voient tout de suite quand la personne n'est pas compétente. Moi, j'ai une de mes filles, là, elle a un prof, là, c'est un prof d'anglais, puis il parle pas anglais, là. Je veux dire, c'est plate, là, il a beau être le meilleur des profs, puis faire des jokes, il est pas crédible. Il sera jamais crédible, il parle pas anglais, t'sais.
Mais l'inverse, c'est un peu vrai aussi. Hein? Quelqu'un qui ne connaît pas bien sa matière, mais qui n'est pas capable de la communiquer parce qu'il est comme un peu dans son monde un peu hermétique de jargon.
Ces gens-là, j'ai pas l'impression que tu leur donnes un an de pédagogie à l'université qu'ils vont devenir bons.
Ben non.
Probablement que je serais bon pour enseigner certaines affaires à des enfants, mais bon, j'ai pas de pédagogie, j'ai pas l'intention de la faire. Ou si je me dis des fois...
C'est une question de profil à ce moment-là.
Non, mais tu sais, pourquoi...
Souvent dans les stages, moi j'ai eu des stagiaires, puis j'en ai eu des super bons, puis j'en ai eu d'autres qui s'en sont rendus compte par eux-mêmes qu'ils n'étaient pas à leur place devant une classe.
T'sais. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression... Tu pourrais avoir comme un peu, je l'ai dit, pas au primaire, ces affaires-là, mais rendu au secondaire, au cégep, tu sais, des gens qui travaillent, qui disent, gars, moi, je suis ingénieur, je donne un cours. Tu sais, juste une petite charge comme ça, je me prends un cours, je le donne, ou tu sais, je suis historien, je donne.
Ça, c'est vrai. Puis c'est difficile, les centres de services scolaires, puisqu'on dit plus commission scolaire, ils ont de la misère à gérer ça, les temps partiels ou les gens qui vont faire seulement des tâches moins pleines. Puis c'est vrai que c'est un peu plus dur à gérer, mais une pénurie d'employés, c'est aussi dur.
À un moment donné,
il faudrait ouvrir la perspective de dire, crime, Puis c'est épuisant, là, sincèrement. Moi, je le sais, j'enseigne, là, puis on est crevés. Souvent, on rit, les profs, ils ont plein de vacances. Ouais, sincèrement, là, c'est parce que si on n'a pas notre mois de vacances en été, on recommence pas la session, on est juste mort. Non. C'est vraiment, vraiment prenant. T'sais, on est tout le temps, je sais pas comment dire, là, on est tout le temps sous le feu. Là,
ben
les
oui,
étudiants, ils ont des questions, là, puis tu peux pas dire « je suis fatigué aujourd'hui, je te réponds pas ».
Ça marche. Alors, c'est pas...
C'est correct, moi, je trouve, d'être à temps partiel. Des fois, si tu penses que tu vas pouvoir mieux faire ta job puis être meilleur, tu sais, devant ta classe. Mais c'est vrai que c'est dur à gérer.
L'autre chose, tu parles d'être à temps partiel, si tu vas attirer les professeurs qui sont sur le bord de la retraite ou garder des professeurs âgés qui ont encore le feu, mais qui se disent, moi, non, 40 heures dans une classe, ça me tente pas, mais je donnerais une petite charge de cours à gauche, à droite, puis je serais super heureux, puis ça me permettrait de me garder occupé. C'est encore une autre solution à la pénurie, mais...
Ben, ça aussi, puis là, je pense au niveau collégial, c'est la même chose. Là. C'est super dur de recruter dans les secteurs techniques parce que tu es bien plus payé quand tu travailles dans une entreprise que quand tu t'en vas enseigner au cégep. Si tu travailles en informatique dans une entreprise, tu vas te faire pas mal plus d'argent que si tu t'en vas enseigner au cégep. Puis même chose dans soins infirmiers, même chose dans tous les domaines. Chose, fait que c'est super dur de recruter des gens. Puis par contre, c'est super important d'avoir des gens qui gardent le pied dans le métier. Oui. Parce qu'ils connaissent, là, il y a des mises à jour là, à chaque année.
Leur connaissance,
là,
ben oui.
En animation 3D, moi je connais Almoilou, là, mais en animation 3D, là, ça change quasiment à tous les 6 mois. Là. Fait que il faut que tu sois dans le domaine. Là. Fait que c'est vraiment.
On a même connu ça à l'université, des fois, des profs qui étaient un petit peu déconnectés de la pratique, de la réalité terrain. Mais il y a un défi aussi pour les enseignantes. J'aime ça, la solution que tu amènes, JD, mais il y a tout l'aspect gestion de classe aussi qui n'a pas de l'air à simplifier. Là. Au cégep, c'est une chose, mais tu sais. Primaire ou secondaire
c'est sûr
avec
d'avoir
des difficultés.
Des remplaçants, mais tu sais, on parlait peut-être plus pour le secondaire parce que justement, tu sais, un cours d'histoire, ben, c'est toujours le même qui va le donner, mais il va peut-être pas donner 6 groupes, il va donner 3 groupes. Tu sais, je sais pas, là, je connais moins le secondaire, mais en tout cas, je pense que ça pourrait plus s'arrimer. Là.
Ou qu'il y aurait plus de ressources peut-être en support, en complémentaire, des éducateurs spécialisés. Ce genre de service-là.
On en a vraiment besoin,
Écoute, on dépasse déjà notre temps. C'est intéressant. On continuera comme ça, mais bon, il paraît qu'il faut faire de la pub éventuellement. Pendant que tu es ici, tes prédictions, tes souhaits pour l'élection, tu sais, genre, ce que j'aimerais qu'il arrive, ce que je pense qu'il va arriver.
Aïe, 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 ça, c'est dur. Sérieux, j'essaie de pas trop regarder les sondages, puis quand je les regarde, je regarde souvent quand on classe par 18-35 ans, parce que là, la carte est orange au maximum, c'est super beau.
Ça, mais il y en a moins cette année, des sondages.
Ouais.
C'est moi ou
ça
il
se
me semble?
Peut. Écoute, j'essaie vraiment de pas les regarder, écoute, je sais pas quoi dire parce que, tu sais, on travaille comme des fous, on se donne à fond, j'ai plein d'appui, je vis dans une bulle, là, c'est sûr, là, tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on va être majoritaire, là. Mais, tu sais, d'un autre côté, j'ai quand même les pieds sur terre, puis je veux dire, on va continuer de toute façon le travail, là. Tu sais, le 4 octobre, là, les organismes communautaires, ils ont encore besoin de nous autres. Ouais. Puis les étudiants, ils ont encore besoin de nous autres. Puis la job, elle va finir. Puis le réchauffement climatique, il va pas disparaître par miracle. Fait que...
C'est une voix, vous portez une voix qui est nécessaire quand même. Puis t'sais, moi, personnellement, si vous pouvez un petit peu faire craquer le bastion droite, là, il se dit centre-droite.
C'est tellement dur. Pour vrai, porter un coton ouaté, c'est une lutte là, à l'Assemblée nationale. Fait qu'elle reste, là.
Ben oui, puis tu sais, dans notre région, il y a aussi quelque chose
d'ancré. Ben écoute, ça nous fait plaisir. Tu reviendras nous voir. Certains. On n'est pas sorteux. Nous, on s'en va à la pause.
On s'en va à la pause.
On
n'a
pas le choix.
On n'a pas le choix.
Moi, je vais être là demain. Je vous laisse dans les doux soins de Kat et de JD. Et puis, je vous dis à demain.
À demain.
C'est JMD. C'est là que ça se passe.
www.rmc.ca.
Tous en voyage quand un brouillard s'approche. C'est la forêt des regrets amers, des doutes sans rémission.
À gauche, une vieille femme me dit « Ne faites jamais ce que je fis, qu'est-ce que vous faites ?» je ne fais rien de ma vie. Y a-t-il un meurtre qu'on oublie ? Y a-t-il quelque chose qu'on ne doit ? Finirons-nous dans la forêt des regrets amers ? Y a-t-il un meurtre qu'on oublie ? Y a-t-il quelque chose qu'on ne doit ? Finirons-nous dans la forêt des regrets amers ? Nous prenons le sentier vers la droite. Peut-être devrions-nous nous arrêter. Et les moines vont-ils s'insulter? J'ai repris la route, la rivière. J'ai repris le chemin battant. Elle m'a dit bien cette rivière. Et j'ai revu tous mes enfants. Nous étions tous en voyage quand un brouillard s'approche de la forêt. Amère des doutes sans rémission. Y a-t-il un meurtre qu'on oublie? Y a-t-il un meurtre qu'on ne doit? Finirons-nous dans la forêt des regrets amers? J'ai voyagé à travers temps. J'ai revu le troisième sang. Son chemin, il y a quelque part derrière lui un rebond. Finirai-je avec celui-ci quand je serai mort? Quand je serai mort? Quand je serai mort? Me dirai-je en revenant de la forêt fidèle? J'ai pu venir les oiseaux de mer. Nous étions tous en voyage quand cette aube s'approche. Disparaissent les fantômes du soir de mai. Mais je rien n'oublie.
Un romain, une églantine, une avant-pierre, un sarrasin, un chichin, une pierre au rein. Et tous et toutes de hurler. Le vieux brequin de percera-t-il tes certitudes? Illusion de ce bonheur n'est-il seulement
la fortune?
Partout dans la ville, le pauvre la savait notre avant. Wazy, tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid.
Je me suis perdu dans le ciel,
je me suis perdu dans le ciel.
Je pensais pour ne plus jamais redescendre. Je suis si la vie belle,
je suis si la vie belle.
On me cherche dans le S, on me cherche dans le wesh. Sorry si j'étais pas rejoignable, j'étais parti dans le ciel. Mon gars, tu peux me reach là où le 3G. Trouve la mélancolie dans le 3G. Kamehameha sur tous mes ennemis. Flou coupé katana, c'est pas des ananas, une tranche de vie. J'te garantis, rien n'est garanti. C'est pour ça que j'vis ma vie au ralenti. You can roll but I fly. She get low when I'm high. I'ma do what I want. Get it big till I die. Nobody can stop me, no. On the road comme un truck, hein. Pensez pas que c'est easy. Fall it work, man.
Je suis partout dans la ville pour les oreilles d'un travaux. Where is he? Tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid.
Je suis perdu dans le
well, it's goodbye. I know what they say, baby, I know how it is. Now I'm doing my thing, it feels right. It seems unreal. Used to look for something, was scared of what was coming. Nothing to fear. Mais non, le ciel s'est clair, on va se perdre.
Je me suis perdu dans le ciel. Je suis perdu dans le ciel. J'ai pensé pour ne plus jamais redescendre. Je sais si la vie est belle.
Je sais si la vie est belle.
Je me suis perdu dans le ciel. Je suis perdu dans le ciel. J'ai pensé pour ne plus jamais redescendre. Je sais si la vie est belle.
Entendre l'incontournable cet été.
Créaforme. Tu connais? Ils font des scanners 3D portables avec une précision aussi fine que la moitié d'un cheveu. Ils cherchent des développeurs logiciels et scientifiques pour repousser les limites de la technologie optique. Écoute ça. Horaires et lieux de travail 100% flexibles, plein de cerveaux brillants comme toi. Tu feras pas juste du code. Tu pourras tester, faire de la recherche, voir ce que ça donne. Chrysler. CJMD 96.9 Lévis.
Demandez à l'assistant Google ou Alexa.
Sommes de retour dans le grand show en ce mardi 20 septembre. Alors, comme Nick nous le disait avant la pause, il est parti! Et c'est la petite Kat qui est au micro pour le reste de l'émission. On change d'animateur, mais on va continuer à parler d'éducation parce que la rentrée scolaire a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Puis, on a des stats aussi qui sont sortis dernièrement dans les médias concernant l'effet de la pandémie sur le décrochage de nos jeunes. Ça fait que j'ai invité des amis pour en parler avec moi en studio, des amis, des alliés de la réussite éducative, des gens qui ont ça à cœur autant que moi. Allô, Kevin?
Hey, bonjour, Cathy.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Puis on reçoit aussi Andréanne Tanguay.
Allô, vous deux.
Allô. Andréanne travaille à l'École du milieu de Lévis, puis Kevin travaille à Trajectoire emploi. Ça fait que c'est deux personnes qui sont très impliquées puis engagées envers la réussite des jeunes de Lévis. Mais puis on va parler de l'École du milieu un peu plus tard avec Andréanne. Mais Andréanne, t'hésites pas à te mêler de la conversation quand même avant ça. Mais c'est ça, Kev, je voulais qu'on parle du taux de décrochage chez les jeunes parce que les chiffres que j'ai vus m'ont fait mal, je dois l'admettre.
Effectivement, c'est quand même assez raide. Là, on commence à voir les effets de la pandémie justement sur le décrochage scolaire. Il y avait un article dans la presse là, qui est sorti récemment. On parle d'un 30% d'augmentation de taux du décrochage scolaire là, pendant les deux dernières années de la pandémie. Bon an, mal an, dans une année normale, entre guillemets, on a entre 8000 et 10 000 jeunes qui décrochent au Québec. Donc, si on fait un 30% de ça, c'est un 3000 de plus. Hein?
De plus, ouais.
Donc, ça nous amènerait à peu près à 13 000 jeunes qui ont lâché l'école. Là, on parle du secondaire au cours des deux dernières années. Donc, c'est quand même malheureusement une tendance qui est quand même assez inquiétante. Peut-être que les gens à la maison vont se dire, bon, ben ces jeunes-là, ils sont allés prêter main forte pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Effectivement, c'est une manière de voir les choses.
C'est une fausse bonne nouvelle, par exemple?
Oui, c'est ça. Le problème dans tout ça, c'est que le balancier va revenir, puis éventuellement, je ne sais pas quand, mais on va finir par retourner dans une dynamique où le taux de chômage va recommencer à monter. Puis les entreprises, s'ils ont des postes à couper, les premiers postes qu'ils vont couper, ça va être malheureusement les personnes qui ne sont pas diplômées. Puis on sait qu'on est dans une économie du savoir aussi, donc de plus en plus... En fait, c'est notre cerveau qu'on met à l'œuvre quotidiennement plutôt que nos bras pour travailler. Donc, j'entendais des jeunes, j'ai été intervenant en persévérance scolaire pendant presque 5 ans, puis j'entendais des jeunes me dire « Ouais, mais moi, mon père, il s'est arrangé, même s'il n'y avait pas de secondaire, mais ton père, il n'a pas travaillé dans l'économie d'aujourd'hui. » où justement on est plus dans une économie du savoir. Donc
le niveau de qualification exigé pour, on s'entend là, peut-être pas juste pour travailler, mais pour avoir un emploi de qualité avec des conditions intéressantes, décentes qui peuvent évoluer, ça prend quand même un minimum de qualification là.
Oui, puis tu sais,
ça peut être un métier là quand on parle de qualification, on parle pas nécessairement de se taper 5 ans d'université puis un doctorat là.
Ben en fait, il y a quand même, si on regarde les perspectives d'emploi là, puis les perspectives de conditions de travail dans les DEP, il y a bien des DEP qui gagnent beaucoup plus cher que des chargés de cours à l'université là, donc l'important, je pense, que c'est d'aller chercher une formation qui est qualifiante. Puis un secondaire 5, oui, ça peut être un objectif pour beaucoup de personnes, mais un secondaire 5, c'est une clé qui ouvre une porte vers autre chose, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est qualifiant. Entendez-moi bien, je suis pas en train de dévaloriser le diplôme d'études secondaires, mais...
C'est quasiment un diplôme d'entrée maintenant, à bien des égards, là. Pour le marché du travail. Mais ces jeunes-là qui décrochent... moi, j'ai vu... c'était une étude... j'ai vu ça dans le Journal de Montréal. J'ai pas trouvé qui a commandé cette étude-là, mais ils ont fait une demande d'accès à l'information auprès de 72 centres de services scolaires. Il y en a 44 qui ont répondu. Fait qu'on tient à préciser que c'est pas les chiffres du ministère de l'Éducation, là. Ça, ces données-là sont pas encore sorties pour les deux dernières années. Mais quand même, 44 centres de services scolaires qui ont répondu, puis c'est ce que ça donnait, là, 30 % de décrochage. Donc, c'est des jeunes là, qui sont pas retournés sur les bancs d'école dans les deux dernières années.
Effectivement, puis tu sais, à une échelle peut-être un peu plus locale, ce qu'on a vu l'année passée, c'est une augmentation très importante de la demande au centre d'éducation des adultes qui, pour la première fois au cours des dernières années, se retrouvaient en liste d'attente. Puis c'est pas parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont réveillés avec la passion d'aller terminer leur secondaire 5, mais c'est plutôt parce que ce sont des jeunes qui leur ont manqué un bout de français ou un bout de maths pour pouvoir aller au cégep, justement. Donc ça aussi, c'est un autre impact qui est pas dans les chiffres qu'on a mentionnés aujourd'hui, mais nécessairement, ces jeunes-là ont entré peut-être une session plus tard au cégep, donc ils vont ressortir avec un diplôme dans un deck quelconque avec une session plus tard. Donc, pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre aussi, à moyen terme, ben là, on se prive pendant une session, entre guillemets, de diplômés, de jeunes qualifiés. Là.
J'imagine que, comme dans tous les taux de diplomation, là, je ne sais pas c'est quoi le terme exact là, qui est utilisé, là, mais c'est bref, ce 30% %-là ne doit pas être égal partout. Si tu vas à l'école Saint-Jean-Marie de Dieu béni à Montréal, puis ça te coûte un 12 000 $ par année pour aller dans une école privée, probablement que le taux de diplomation a été moins impacté que si tu es dans Hochelaga-Maisonneuve ou dans Montréal-Nord. Est-ce qu'on a vu une disparité en termes d'augmentation du taux de décrochage ou on parle d'un taux global?
Les chiffres sont pas allés dans le micro aussi précis que ça.
Okay.
Cependant, tu as quand même raison avec ton hypothèse dans le sens où par région administrative au Québec, il y a des endroits qui performent mieux, puis il y a des endroits qui performent moins bien. Si on prend la région de Chaudière-Appalaches, là, la dernière fois que j'avais regardé les chiffres, on était top 3, là. Donc, avec un taux qui était aux alentours de 82 % de diplomation et de qualification.
Ce qui est quand même très bien, c'est très bien.
Chez les moins de 20 ans, dans le fond, là. Fait que, tu sais, on est quand même dans le top 3. C'est sûr que, justement, si on s'en va dans des endroits où il y a plus facteurs de défavorisation, ces choses-là, ça a un impact. Puis tu peux certainement avoir à l'intérieur d'un centre de service, je pense entre autres dans le coin de Montréal, des disparités assez importantes où, tu sais, dans Westmount, d'après moi, ça doit bien aller.
Oui.
Mais dans Hochelaga, on est peut-être sur un autre ballgame.
Je ne sais pas si ça existe, ces chiffres-là comparatifs entre le public puis le privé, mais les chiffres qu'on a là, sous la main aujourd'hui, c'est uniquement dans le public.
Okay.
Parce que c'est les centres de services scolaires qui ont été questionnés, pas les écoles privées. Puis effectivement, il y a de la variation d'un centre de services scolaires à l'autre, puis dans certaines régions. Puis il y a même, suite à cet article-là, il y a même des quotidiens régionaux, des journaux régionaux qui se sont empressés de vérifier auprès de leur centre de services vie scolaire pour dire « Hey, nous autres, on s'en sort bien, on n'a pas vu d'impact. » Fait que le 30% c'est vraiment global dans la province. Là.
Dans le Québec.
Dans le Québec, oui, dans le Québec, bien sûr. Puis ici, ce que j'ai, c'est le Centre de services scolaires de la capitale. Fait que ça...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous concerne, tu sais, je suis même pas sûre que des navigateurs y ont répondu. Je les ai pas vus dans la liste.
Connaissant la direction générale des navigateurs, d'après moi, ils n'ont pas répondu.
Par contre, ce qu'on sait qui nous caractérise aussi en Chaudière-Appalaches, c'est le nombre de jeunes en emploi. Pendant qu'ils sont aux études secondaires, on fait partie des régions où il y en a le plus, qui travaillent tout en étudiant. Puis, dans le contexte actuel du marché du travail, c'est aussi un enjeu. Puis tu sais, on fait face comme à un double défi. Là, il y a toute la pandémie qui a amené des jeunes à se démobiliser là, de leurs études parce que le mode d'enseignement, tu sais, on s'entend que c'était pas pareil, là, les cours à distance, le téléenseignement, puis tout ça, ça l'a joué. Il y en a probablement qui ont pris du retard aussi qu'en retournant peut-être en présentiel, ils se sont rendus compte, là, parce que, tu sais, tu peux décrocher en secondaire 3, mettons, là, mais après 5-6 ans, si tu vas refaire un test de classement, pas sûr que tu es encore là. C'est souvent ce qu'on voit, là, c'est que il y a des pertes, hein? Il y a un recul qui se fait là, après ça, quand tu repasses des examens. Ça fait que ça peut peut-être décourager certains. Puis, ben, on a ce défi-là de la pandémie, puis on a le défi aussi de la rareté de main-d'œuvre. On en parlait, là. Il y a beaucoup d'opportunités sur le marché du travail présentement. Oui, on s'en va vers une économie du savoir, mais il y a encore beaucoup de besoins pour des emplois non spécialisés qui peuvent paraître bien payants, bien attractifs quand tu as 16-17 ans puis que tu habites encore chez Papa Maman. Mais on s'entend quand tu vas être rendu à fonder une famille.
Et peut-être que bientôt, on va pouvoir faire la corrélation aussi entre la pénurie de main-d'œuvre puis l'augmentation du décrochage dans certaines régions. Par exemple, si en Chaudière-Appalaches, on a un taux de chômage à quoi?
1,2-1,6%.
J'ai hâte de voir dans quelques mois, dans quelques années, est-ce qu'il va y avoir une corrélation entre les élèves qui ont quitté l'école avant d'atteindre leur diplôme d'études. Là.
Mm-hmm. C'est fort possible. C'est très difficile pour les entreprises, je pense, présentement, de résister à offrir des heures de travail puis à attirer cette main-d'œuvre-là. Puis, fait que mettons que le match là, peut être facile à faire entre un élève qui a de la misère à l'école puis qui a une opportunité d'emploi puis l'employeur qui dit « Ouais, viens, j'ai des besoins. »
Exact.
Fait que, oui, c'est
bon, ça. Je sais pas si tu as changé d'allégeance d'épicerie, de supermarché. Là. Moi, je restais fidèle à mon épicerie.
Oui,
puis je vois
de quartier.
Puis je vois des jeunes femmes, des jeunes hommes de 12, 13 ans qui sont derrière la caisse. Là,
Des ados,
exact. Avec pas trop de poils au menton, là. C'est assez surprenant. Fait que ça aussi, tu sais, ça, c'est tentant à 13 ans de gagner un 14$ de l'heure.
Mm-hmm.
Ça peut être très attrayant, mais comme tu dis, rendu à 20 ans, si tu as juste fait ça de 13 à 20, t'es peut-être gérant, mais c'est ça.
Oui, tes possibilités d'avancement, à un moment donné, ils vont plafonner plutôt vite. Puis c'est important, tu sais, Ma position, moi, c'est on ira pas à l'encontre de ça. Là. C'est pas vrai que les jeunes vont abandonner cette source de revenus qui leur permet d'avoir un certain niveau de vie, hein, d'avoir une vie sociale, ouais, pis, de la technologie.
Il y a le phénomène du voisin gonflable aussi qui est un peu là chez nos jeunes. T'sais. Moi, je travaille pas, mais admettons, Andréane travaille, elle arrive avec son cellulaire à l'école le lendemain. Là, moi aussi, j'en veux un cellulaire. Donc, on vit aussi ce phénomène-là, je pense, chez nos jeunes, que ceux qui travaillent pas voient le côté positif, donc surtout du matériel ou les sorties au cinéma, ces choses-là.
Ouais.
Mais tu sais, moi, je travaille pas, mais bon, je fais le ménage chez nous, là. Ma mère, elle me donne un 20 par semaine, genre, là. Ben là, il me semble que mon niveau de vie, même si j'ai 12-13 ans, il est quand même beaucoup plus bas, donc je veux aspirer à ça, moi aussi.
Ouais, puis les jeunes sont exposés à des objets de consommation, même un peu luxueux des fois. Là,
ben, on sait qu'à ces âges-là aussi, les marques sont importantes.
Oui. Hein, pas de jeans à 120$, je ne me suis jamais payé ça encore, moi, mais ça arrive.
Fait qu'il faut faire partie de la gang. Puis tu disais aussi, pour l'employeur, c'est difficile de résister. Mais pour le jeune, c'est difficile de résister. T'sais, on se rappelle à ces âges-là, 13, 14, 15, 16, dire non à un boss. Tu sais, bon, comment ça va passer? Moi, tu me fais remettre dehors. S'affirmer à cet âge-là devant quelqu'un qui est en autorité aussi, c'est quelque chose qui peut être quand même relativement difficile. Donc, la voie la plus facile, c'est ben oui, je vais y aller, je vais le faire.
Un autre facteur qui n'est pas à négliger, c'est qu'un jeune qui a de la difficulté à l'école, mais qui s'accomplit dans son travail,
oui,
va avoir beaucoup plus envie de dire oui à son patron plutôt que puis de dire non à l'école et vice versa. Là. Donc, c'est ça qu'on vit.
Mais
avec.
C'est pas, tu sais, comme société, faut prendre ça, faut prendre acte de ça, là, que ça peut être plus valorisant pour certains jeunes de placer des cannes dans un étalage d'épicerie que d'aller à l'école. Tu sais, il y a quelque chose. Il faut rendre l'école plus attrayante pour ces jeunes-là qui n'y trouvent aucune source de motivation puis de stimulation.
Ouais, mais Kat, est-ce que ça serait pas à quelque part, c'est la question qui tue, c'est bien correct comme ça si ces gens-là sont pas attirés par l'école puis ils ont une source de revenus intéressante puis ils aspirent pas à devenir ingénieur nucléaire, là?
Ouais, c'est bien correct qu'ils veulent pas être ingénieur nucléaire, mais tu sais, il y a des métiers
je suis d'accord, mais la chose qui reste, c'est que ça prend ces emplois-là
oui,
aussi
c'est
dans
sûr,
tout
ça,
le secteur de la restauration, dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'alimentation, dans le commerce de détail. Si on veut que notre économie roule, que les vies restent attractives au niveau touristique, ça les prend ces emplois-là. Puis ça les prend aussi pour nous, autour de la table, quand on veut aller d'un bon resto, s'il n'y a pas de plongeur, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de serveur, ben le resto ferme, c'est ça. C'est des emplois qui sont nécessaires aussi.
Oui, c'est sûr qu'il y a des... C'est pas tout le monde, là. C'est pas fait pour tout le monde d'aller même faire un métier, un DEP. Mais je pense quand même que d'avoir comme un niveau minimum là, de littératie, de numératie... Ouais, je vois Andréane.
On est en train de mettre la table, hein?
Exactement. Mais c'est parce que même, tu sais, c'est normal, puis on va toujours en avoir besoin de ces métiers-là, je suis tout à fait d'accord. Par contre, moi, quand j'apprends qu'un jeune, par exemple, de 17-18 ans a de la misère à lire un texte sans le comprendre, j'ai un malaise. Ouais, je veux dire, en 2022, tout le monde... Je veux dire... L'écriture, la lecture, savoir compter, c'est un droit. Là, je veux dire, c'est des acquis. En 2022, tout le monde devrait les avoir. Là.
Ben, c'est pas juste pour l'emploi, hein, c'est pour exactement fonctionner, pour avoir accès aux services même comme citoyen.
On est quand même dans une société où il y a quoi, c'est 48% d'un alphabet fonctionnel. Donc, tu sais, je pense que tu peux... T'sais, aller à l'école pour aller chercher, t'sais, répondre à ton point à toi de dire ça prend des gens qui vont occuper des emplois qui sont pas nécessairement dans les domaines spécialisés,
oui,
mais en même temps, on a un gros défi. Là.
Ah, 48%
d'analphabètes. T'sais, là, on est en période de campagne électorale présentement, donc t'sais, là, comment cette personne-là va être en mesure de bien exercer son droit de vote? Ben, je même, pose la question.
Ça peut aller jusqu'à bien exercer une prescription médicale, là, de pas être capable de bien comprendre qu'est-ce qui est écrit sur le sur son pot de pilule, puis entraîner des problèmes de santé, là, ça peut aller jusque là.
Puis tu sais, je trouve que peut-être que c'est moi qui a moins vu ces choses-là dans la campagne jusqu'à maintenant, mais il me semble qu'on parle pas beaucoup d'éducation.
Non, on a effectivement.
Tu sais, puis on a beaucoup parlé d'inflation puis de coût de la vie au début de la campagne. Ça s'est réglé assez rapidement, mais tu sais, notre premier ministre nous a répété combien de fois que l'éducation, c'était la priorité. Je la cherche dans la campagne électorale, puis je la cherche chez la CAQ présentement.
Oui, parce qu'au Parti québécois, ils veulent lancer un grand chantier là-dessus sur l'alphabétisation. Là, j'ai vu des premières propositions sortir, donc peut-être que c'est le temps de l'éducation qui va s'intégrer dans la campagne, puis qu'on va en entendre peut-être plus parler au cours des prochains jours, ce qui est essentiel à un choix éclairé en termes de choix politique puis d'exercice du droit de vote. Mm-hmm.
Puis, tant qu'à moi, à chaque fois qu'ils parlent du marché du travail, parce qu'ils en ont beaucoup aussi parlé, du défi de la rareté de main-d'œuvre, on devrait parler aussi de la conciliation de ça avec l'éducation, avec la littératie, la numératie. Puis, tu sais, c'est ça, je disais tantôt, moi, je pense qu'on n'enlèvera pas, les jeunes du marché du travail. Ça fait qu'il faut le gérer intelligemment. Puis même que les études démontrent que jusqu'à un certain nombre d'heures, c'est favorable au développement d'autonomie, au développement de plein d'habiletés, de compétences génériques et spécifiques. Ça fait que il faut être vigilant juste pour pas que ça passe de l'autre du côté obscur, de la force, puis que ça l'amène les jeunes. Y a-tu des chiffres, Kevin, qui dit, y a-tu un nombre d'heures magique qu'il faut pas dépasser?
Il y a la littératie va dire qu'à partir de 18 heures par semaine, un jeune du secondaire va commencer à avoir une baisse dans les résultats scolaires. Honnêtement, moi, je l'ai jamais travaillé comme ça, comme intervenant, parce que pour moi, ça, c'est propre à chaque personne. Si tu as un TDAH, ben ça se peut que toi, tes journées à l'école soient plus exigeantes. Mm-hmm. Ça se peut que tes journées au travail soit plus exigeante aussi. Donc, peut-être que dans ton cas, à toi, ben ça va être 14 heures. Puis, tu sais, il y a d'autres personnes pour qui l'école, ben ça vient un peu plus facilement, ils retiennent plus, c'est plus facile.
Ils ont moins besoin d'étudier,
ils ont généralement plus d'intérêt peut-être. Donc, ben à ces gens-là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, OK, tu peux peut-être en donner un petit peu plus, mais il y a des périodes clés aussi dans l'année. Les examens, c'est prévu d'avance, là. Donc, tu sais, pour moi, c'est d'aller voir avec l'employeur, est-ce que tu peux diminuer tes heures? Regarde, là, c'est ma semaine d'examen, voici mon agenda, c'est ma semaine d'examen. Cette semaine-là, je veux faire moins d'heures, mais la semaine d'après, je t'en donnerai quelques-unes de plus pour compenser ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vraiment travaillé. Puis ça, je pense que c'est un discours qui vient plus interpeller les jeunes plutôt que de dire « Ah, c'est 18 heures, puis après 18 heures, tes résultats vont baisser, c'est sûr. » Donc, c'est d'aller s'adapter, justement. Puis en fonction, tu sais, il y a des périodes de la vie où on est, tu sais, bon, l'automne s'en vient, là. Ben, il y a des gens que c'est plus difficile pour eux, ils ont plus d'énergie, ils ont moins d'énergie. Ben, à ce moment-là, tu sais, y a-tu moyen d'aller moduler tes heures pour donner un peu plus de priorité à l'école? Je pense que c'est vers des mesures comme celle-là qu'il faut qu'on aille plutôt que vers... Parce qu'il y a une question de responsabilisation de la personne. Mm. Puis, tu sais, l'employeur a une part de responsabilité, puis le jeune a sa part de responsabilité là-dedans.
Puis les parents aussi doivent être vigilants par rapport à tout ça.
Donc, tu sais, je pense que si tout le monde, tu sais, met du sien un peu là-dedans, puis essaie de trouver un équilibre, puis est conciliant, je pense que c'est comme ça qu'on va faire en sorte que nos jeunes vont réussir puis ils vont persévérer.
Pis c'est que ceux qui ont le potentiel vont l'utiliser, tu sais, comme on dit. Ceux qui c'est le marché du travail, là, la voie pour eux, ça sera ça. Mais ceux qui ont le potentiel d'aller chercher une formation qualifiante puis qui décrochent, c'est ceux-là. Là,
exact,
qu'on
veut pas échapper.
Il y a quand même des défis, hein, pour le milieu scolaire, là, de retenir certains profils de jeunes. On le dit depuis tantôt, là, il y en a pour qui c'est plus tentant que d'autres d'aller travailler définitivement, de lâcher l'école. Mais il existe, tu sais, le défi, c'est de les raccrocher aussi, ces jeunes-là. Hein. Il y en a, puis peut-être particulièrement. En tout cas, je lisais là, je lisais une intervention là, de la directrice du ROCLD en bon français, du regroupement des organismes communautaires en lutte au décrochage.
Wow.
Tu comprends
wow.
pourquoi on appelle ça le ROCLD, qui s'inquiétait. Puis c'est la première fois que j'entendais ce point de vue-là. Je trouvais ça intéressant. Qui s'inquiétait particulièrement pour les filles, parce que les filles qui décrochent ont moins tendance à revenir pour des DEP. Fait que, tu sais, c'est moins attirant pour une fille, la plupart des DEP. Bon. Je trouvais ça quand même étonnant parce qu'il y a quand même des DEP. On parlait tantôt avec...
Coiffeur, esthéticienne.
Ouais, là,
non, je déconne, Kat.
Non, mais ben, tu déconnes, oui, puis non. Ça, c'est un autre débat.
C'est un autre débat, OK.
Est-ce qu'ils sont payés, tu sais, les éducatrices en garderie? Okay. Ben ça, c'est pas un DEP, mais quand même. Tu sais, il y a des métiers de soins préposés, puis ouais. ça, qu'ils sont peut-être pas payés à leur juste valeur. Mais tu sais, de façon générale, raccrocher ces jeunes-là, c'est une fois qu'ils sont partis, premièrement, il faut les rejoindre. Après ça, il faut les convaincre de ne pas travailler à temps plein, de faire une place aux études, de reprendre aussi le rythme des études, les méthodes de travail des études. Ça paraît facile à dire, mais quand ça fait un bout de temps que tu n'as pas étudié, tu ne travailles pas de la même façon hein, quand tu es aux études que quand tu es en emploi. Là, on dirait que les neurones, les méthodes de travail sont pas les mêmes. Fait qu'il faut qu'il y ait des moyens, des alternatives. Là, on ne peut pas, je pense, espérer raccrocher ces jeunes-là exactement dans le même contexte qui était avant de décrocher. Je pense qu'il faut être un peu plus créatif que ça. Il en existe des solutions. Il en existe des moyens, puis c'est pour ça qu'on a invité Andréanne. Parce que je voulais qu'elle nous parle de l'école du milieu, qui est un milieu adapté de scolarisation, comme il y en a maintenant, je pense, une soixantaine au Québec.
Oui, à peu près. À peu près toutes les régions aussi, on en retrouve qui sont toutes à peu près différentes, là, autant les unes que les autres. En fait, la base est la même, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui s'adapte à l'élève plutôt que ce que l'élève s'adapte au modèle. Comme on voit souvent, là, on entend souvent l'image, les élèves, c'est des ronds, on essaie de les faire rentrer dans des carrés, par exemple, okay. dans le système scolaire régulier. Ouais. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte, on offre des parcours personnalisés à chaque élève qui vient chez nous pour les aider à raccrocher.
OK. Puis bon, concrètement, là, c'est quoi là, les ingrédients? Les ingrédients de votre recette. Puis parle-nous de l'école du milieu. Là. Crée des images. Là, à quoi ça ressemble? Là. C'est-tu une grosse bâtisse avec en briques rouges?
Pas exactement, en fait. L'école du milieu, c'est une classe de 15 élèves maximum. Donc, on a trois volets d'activités qui sont tous interreliés finalement. Donc, le premier volet, c'est un volet d'enseignement. On a une enseignante en adaptation scolaire, pardon, qui est aussi orthopédagogue, qui offre des cours de français et de mathématiques du préscolaire jusqu'au secondaire 4 en maths et 5 en français, exactement. Donc, okay. les cours sont reconnus par le ministère de l'Éducation. Est avec eux 3 avant-midi et une journée pleine par semaine. Donc, chaque élève arrive, on va partir de ses connaissances. Donc, il va faire un test de classement si ça fait longtemps qu'il a quitté l'école, par exemple. Puis, on va partir de ses connaissances, puis on va aller avec ses objectifs. Qu'est-ce qu'il a besoin? Si, par exemple, il veut aller intégrer le cégep, c'est quoi les crédits qu'il a besoin? S'il veut aller intégrer un DEP, qu'est-ce qu'il a besoin? Donc, on va monter avec lui un plan de cours, puis il va faire son année, il va être avec nous le temps qu'il a besoin pour atteindre ses crédits.
OK. Donc, il va se concentrer sur le français puis les mathématiques.
Exactement.
Mais c'est un peu comme à l'éducation des adultes. Dans le fond, dans une classe, il peut avoir les élèves de tous ces niveaux-là que tu as nommés, du présecondaire jusqu'en secondaire 5.
Exactement. Puis notre enseignante, bien, elle fait les deux matières. Donc, le matin, ils peuvent faire du français, l'après-midi, des maths. On a certains élèves qui ont que des maths, d'autres juste du français. Puis elle peut les accompagner là, tout au long, là, à leur rythme, à eux.
OK. Mais donc, ça doit être quelque chose, faire du français puis des mathématiques toute la semaine?
Oui, exactement. C'est pour ça qu'on a un autre volet qu'on appelle le volet Cible Aventure.
OK, oui, ça m'intrigue.
Donc, on a 3 après-midi par semaine, des activités pour nos élèves. En fait, c'est des activités qui ont plusieurs... comment dire? C'est difficile à décrire parce que ça touche tellement à des choses différentes. Le but de ce volet-là, c'est vraiment que les élèves apprennent à se connaître, apprennent à se dépasser. Fait qu'on a un volet qui peut être artistique, culturel, sportif, implication citoyenne aussi. On peut aller faire de l'escalade, comme on peut aller visiter le musée, faire de la peinture. Aujourd'hui, justement, nos élèves étaient à l'Assemblée nationale. Donc, on essaie vraiment de leur faire toucher à tout pour qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes, qu'ils découvrent leurs limites, puis qui trouvent peut-être des passions, parce qu'on se rend compte qu'ils apprennent beaucoup en faisant les choses, en expérimentant. Mm-hmm. Fait que ça, c'est pour le volet Cible Aventure. On a deux intervenants psychosociaux aussi qui sont là. C'est eux qui animent les activités de groupe. Et parallèlement à ça, il y a aussi des suivis individualisés, parce qu'on a quand même des élèves qui ont décroché depuis un certain temps, puis des fois, ils ont des petits des défis personnels, disons, ou des petites problématiques à régler sur le plan personnel. Donc, les intervenants vont travailler ça individuellement, un à un, encore une fois, à leur rythme. Fait que c'est trois volets qui sont vraiment interreliés. Un fonctionnerait pas sans l'autre, finalement. Puis, voilà. Fait qu'on a, puis c'est un maximum de 15 élèves par classe, ce qui fait que nos... Il y a des liens qui se développent, puis une proximité aussi avec l'enseignante, avec les intervenants. Fait que chaque personne a sa place, chaque personne apprend son rythme. C'est vraiment un parcours unique d'apprentissage.
OK. Puis c'est où ça exactement, l'école du milieu? C'est-tu une classe dans un établissement scolaire?
En fait, on est situé ici, dans les locaux, là, sur la rue Fortier à Lévis. Donc, on partage les locaux avec nos colocs de Trajectoire Emploi. C'est une classe, tout simplement, là, avec des pupitres comme on voit à l'école, mais un petit peu plus flexible, disons-le, comme ça.
Oui, c'est dans la façon de combiner tous ces... Dans le fond, c'est de l'éducation au sens beaucoup plus large que juste académique et scolaire.
Exactement, oui. On a un volet, on aime bien dire qu'on fait du raccrochage citoyen. C'est que les élèves qui viennent chez nous vont se réconcilier avec l'école, mais vont aussi se réconcilier un petit peu avec la société. Fait que plutôt que de dépendre de la société, bien, nous, on fait le pari qu'ils vont s'impliquer puis devenir des contributeurs, finalement. Mmh.
Puis, est-ce qu'il y en a des jeunes qui travaillent parmi ces élèves-là?
Oui, on en a quelques-uns. C'est sûr que c'est pas toujours évident. Par contre, on a quand même, on se rend compte qu'on, tu sais, faut faire confiance aux employeurs aussi. On a des employeurs, ce que j'entends, qui sont très très flexibles, qui vont être accommodants, puis tu sais, qui comprennent, puis qui encouragent aussi les élèves à aller chercher leurs acquis finalement. Là. Fait qu'ils vont les libérer plus tôt, les faire rentrer plus tard. Fait que la plupart, en tout cas présentement, ceux qu'on a sont assez accommodants là, pour, okay. pour nos élèves.
Parce qu'à l'école du milieu, est-ce qu'il faut être présent tous les jours ou comment ça. À quoi l'élève doit s'engager pour pouvoir s'inscrire à l'école du milieu?
En fait, il doit s'engager à être présent. C'est sûr que la différence entre nous, par exemple, puis les adultes, c'est qu'on a, on a quand même une flexibilité. Donc, les élèves ont droit, par exemple, à un certain pourcentage d'absence au bout du mois. On a quand même des élèves qui sont financés là, via un programme de Service Québec. Donc, on a certains élèves qui reçoivent des sous pour venir à l'école. Donc, c'est sûr que pour ceux-là, là, mais en fait, pour tous les élèves, il y a quand même un pourcentage d'absence qui est toléré, qui ne doit pas être dépassé. On veut s'assurer d'être aussi le bon service, puis on veut qu'il avance. Là, il faut qu'il fasse la démonstration qu'il y a vraiment des acquis là, chez nous. Mais c'est sûr qu'on est quand même plus flexible puis on est plus compréhensif aussi. Là. Fait que quelqu'un, par exemple, un élève, là, sa blonde vient de le laisser, il se ramasse dehors, peu importe la raison, bien, on va s'asseoir, on va comprendre, on va se mettre avec lui puis on va trouver des solutions. Là.
Quand tu parles d'école du milieu, est-ce que vous êtes aussi en lien avec différents organismes du milieu communautaire pour référer des élèves vers certains services peut-être ou certains...
Oui. Exactement. Okay. On essaie de faire vraiment un filet de sécurité. Fait qu'on a autant des élèves qui nous sont référés qu'on va en référer, par exemple, si on n'est plus le service adéquat pour eux. Ce qu'on veut, c'est que nos jeunes vivent des réussites. On veut pas les placer en situation d'échec. Fait que quand ils quittent pour une fin de parcours, parce que la plupart vont atteindre, par exemple, leurs objectifs, mais c'est sûr qu'il y en a qui, pour des raisons familiales, personnelles ou toute autre raison, vont faire le choix de quitter pour retourner sur le marché du travail, par exemple, ou tout simplement pour aller remettre un petit peu d'ordre dans leur vie, bien, ces jeunes-là, on s'assure de tisser un filet ou de les mettre en contact avec les bonnes personnes parce qu'on veut laisser personne derrière. On veut être certain qu'ils sachent au moins où appeler ou aller chercher de l'aide s'ils en ont besoin.
Ouais, super.
Un parcours réussi là, à l'école du milieu, ça se conclut comment? C'est quoi la suite après pour ces élèves-là?
Ça dépend de chaque élève, ça dépend de chaque, en fait, de leurs objectifs. Quand ils arrivent à l'école, on s'assoit avec eux puis on crée un plan d'action pour voir où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Fait qu'on va essayer de les orienter, on va les guider puis on va les aider à avoir les outils pour être capable de se rendre où ils veulent aller finalement. Mais quelqu'un qui, par exemple, voudrait aller au cégep, il va venir chercher son français, ses maths, puis ensuite de ça, on va faire un pont avec lui pour aller aux adultes où il va aller chercher son anglais, par exemple, pour aller faire ses examens et obtenir son diplôme. Okay. On en a aussi qui vont faire des GED, là, c'est comme un équivalence. Ils peuvent le faire ici, puis après, ils peuvent aller rejoindre une formation qualifiante ou aller faire un DEP. Là, dans toutes sortes, vous voyez, là, à la session, là, l'automne là, qui vient de commencer, on a trois élèves là, de l'année passée, un qui est allé au cégep, puis deux qui ont commencé des DEP. Là, fait que c'est des beaux succès.
Bravo.
Vraiment pour eux. Là, c'est,
ben, pour toi aussi.
Ouais, ben, mais nos jeunes sont tellement inspirants. Là, on en a 15 dans la classe, puis c'est plein, plein de potentiel.
OK. C'est que là, présentement, il n'y a pas de place, mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils vont rester avec vous toute l'année? Est-ce que ça va juste à la rentrée 2023 non. avant de pouvoir y aller?
Non, pas du tout. C'est entrée continue, sortie variable. Fait que comme chaque jeune est unique, chaque parcours est unique, il n'y a pas de temps. Il y a des jeunes qui vont être avec nous un 3 mois, d'autres 6 mois. C'est sûr que là, avec la pandémie, il y en a quelques-uns là, qui c'est leur quatrième rentrée. Là. Fait que ça, c'est propre à la pandémie. Là. Okay. Mais sinon, ça varie entre 6 mois et 2 ans. Je vous dirais, le règle générale.
OK, ouais, parce que l'école du milieu a traversé aussi comme milieu scolaire adapté. Oui, c'est ça. Vous avez vécu des années de pandémie aussi. Puis est-ce que ça l'a laissé des stigmates ou des traces parmi vos élèves?
Par contre, au début de la pandémie, là, Kevin, tu pourrais me corriger si je me trompe, mais on avait un taux de rétention quand même impressionnant. Il faudrait que tu me dises, c'est quoi la stat?
100%
des
élèves.
100% des élèves.
C'est vraiment impressionnant.
C'est 100% des élèves d'école du milieu qui ont qui sont restés là, après la première vague. Là. Donc, finalement, il n'y a pas de jeunes qui ont quitté. Puis, tous les jeunes ont terminé leur année en 2020. Puis, à l'échelle des milieux adaptés de scolarisation, là, comme tu disais, il y en a peut-être une soixantaine. C'est un taux de 92% aussi. Donc, tu sais, il y a quelque chose d'un peu... ce que je trouve intéressant, c'est qu'on pourrait se dire ce sont ces premiers jeunes-là qui auraient probablement voulu tirer à plug sur l'école. Oui. Mais au contraire, à l'école du milieu, c'est eux autres qui nous ont demandé de revenir à l'école parce qu'ils en avaient besoin. Fait qu'il y a quelque chose d'inspirant là-dedans que je trouve parce que la majorité de ces jeunes-là, ils ont des défis. Là, tout ce qui finit en I, là, dyslexie, dysorthographie, ces choses-là, la majorité des élèves en ont. Donc, ce sont des jeunes qui ont déjà des défis sur le plan de l'apprentissage, qui ont des défis sur le plan personnel. Donc, ils auraient pu dire avec la pandémie, « Fuck l'école ». Mais non, ils ont décidé, on a besoin. Ils ont considéré l'importance de cet engagement-là dans leur vie. Puis, ils ont levé la main pour continuer, puis ils ont resté.
Hey, ça, mais puis, tu amènes un bon point. Je pense que les jeunes qui décrochent l'école, c'est pas, je pense, dans la plupart des cas, des jeunes qui dévalorisent l'école ou qui considèrent pas que l'école, c'est important puis que l'éducation, c'est pas... Tu sais, ils considèrent pas que c'est pas important. Hein?
Non, pas du tout.
C'est pas là que ça se passe. Hein, qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes à l'école du milieu, qui fait qu'ils se retrouvent chez vous? Qu'est-ce qui fonctionnait pas dans le système scolaire régulier?
Le point commun là, que la plupart à qui j'ai parlé là, individuellement me disaient que c'était le sentiment de foule aussi à l'école. C'est que quand tu arrives, par exemple, au secondaire, tu es dans un gros bassin, tu te perds un petit peu dans la masse. Puis c'est que c'est difficile des fois de tisser un lien de confiance. Il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin d'un lien, soit pour mille raisons. Il y en a qui n'en ont jamais eu dans leur vie, ils n'en ont pas eu à la maison. La plupart ont vécu aussi de l'intimidation à l'école. Fait qu'il y a quelque chose un peu de... Tu sais, quand t'es pas capable de... Tu sais, t'as pas d'amis, t'as pas de réseau, t'as des difficultés d'apprentissage, ça fait un cocktail...
Ton lien est faible avec l'enseignant, puis c'est pas nécessairement la faute de l'enseignant, mais...
Ça peut venir super anxiogène d'aller à l'école dans ce temps-là. Fait que j'imagine qu'en créant un plus petit groupe comme ça, il y a un esprit de corps qui doit s'installer où les jeunes s'identifient, puis il n'y a pas de jugement, finalement, entre...
Exactement.
Moins peut-être que dans une classe tournante.
Le lien est excessivement fort entre l'enseignante puis les 15 élèves, mais les 15 élèves ensemble aussi. Puis ça, c'est une des choses qui c'est vraiment inspirant parce que la plupart d'entre eux vont se soutenir pendant leurs difficultés. Ou on en a un qui va être en crise, puis les autres vont le prendre par les bras, ils vont l'isoler, puis ils vont dire « Hey, t'es-tu correct? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui s'est passé? » Ou « OK, non, laissez-y de l'air. » Ils sont très, très solidaires entre eux, puis c'est super beau. Même ce qu'ils nomment beaucoup, c'est qu'ils se sentent comme dans une famille. Ils créent des liens, ils se voient en dehors de l'école, puis c'est quand même, on a une classe entre 16 et 25 ans, là, fait qu'on a quand même des écarts, puis plus, on a des jeunes de tous les milieux, de toutes les réalités différentes, mais ils ont un point commun, puis ben c'est l'école du milieu, finalement, fait qu'ils ils trouvent leur place.
Fait que c'est pas nécessairement des jeunes qui viennent de milieux défavorisés, là. Il peut y avoir des jeunes qui sont encore chez leurs parents, puis que les parents sont là, puis sont présents, là.
Exactement, c'est très, très, très variable. On a de T'sais, on a vraiment de tous les scénarios. On en a pour... notre slogan, c'est « Unique comme moi et chaque élève a sa couleur ». Donc, c'est vraiment ça à l'école. Chaque élève a sa couleur. Chaque élève vient de milieux différents, avec des couleurs différentes, a des acquis, un parcours tellement différent. Puis c'est un petit peu ce qui fait la beauté. Là, on a des élèves, on a des mineurs qui vivent encore chez leurs parents, milieu plutôt aisé. On a des jeunes qui sont en appartement, qui ont décroché depuis super longtemps, enjeux de santé mentale. C'est très, très variable. mais tout le monde trouve son compte, puis finalement, il y a un bon climat de classe quand même.
Oui, quand même, puis il faut que tu nommais l'importance du lien avec l'enseignante, mais il faut des intervenants aussi qui sont capables
ouais.
de gérer, de la créer, cette cohésion-là aussi dans
Exactement,
le groupe.
Exactement, parce que ben, c'est une chose de le faire en individuel, mais en groupe, c'est autre chose aussi. Parce que, veux, veux pas, tantôt, je le disais un peu, les élèves font toutes sortes d'activités différentes, fait que c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde à chaque fois, tu sais. Fait que les élèves vont les chercher un à un, puis ils sont capables eux aussi d'avoir un lien avec eux, avec chacun des élèves. Puis ils finissent par les connaître aussi. Là. Fait qu'ils savent quand ça va moins bien, des moins bonnes journées, ils savent comment les prendre. Puis ils ont beaucoup d'expérience, puis sont à leur place. Là.
OK. Et puis cette semaine, vous les avez sortis de leur zone de confort en les amenant à l'Assemblée nationale.
Exactement. Mais ça pogne les ateliers politiques.
Oui, c'est bon. Mais j'aurais, tu sais, au Laser Game, je me serais dit, là, ils ont dû triper, mais à l'Assemblée nationale, ils ont aimé ça aussi.
J'ai pas eu de feedback encore. Là. Je pourrais vous en reparler la prochaine fois, mais je pense que oui. Les ateliers politiques, généralement, c'est quelque chose qui pique leur curiosité aussi. Puis je pense que c'est important de semer la graine aussi de leur implication citoyenne, puis de les tenir informés, tout ça, là, c'est eux notre avenir. Là,
ben oui, pas. Puis tu parlais de raccrochage citoyen, là, quelle belle façon de sensibiliser à notre rôle de citoyen que de l'importance d'aller voter, entre autres, la voilà. politique. JD, moi, je trouve que... il est quelle heure, là? 8h22. On sera jusqu'à 1h30, c'est bon?
C'est parfait.
Ça, c'est un exemple, je trouve, de comment on peut être créatif pour aller rejoindre des jeunes qui ne seraient plus à l'école autrement. Par rapport aux employeurs, je me disais, il me semble qu'il y aurait quelque chose aussi d'intéressant à faire. Tu sais, tu disais, Kevin, entre autres, que les employeurs sont quand même capables d'être conciliants. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient être conciliants au point, par exemple, de recevoir l'école dans leur mur?
Hey boy.
Parce que c'est quelque chose, ça, que je me dis, faut peut-être falloir en arriver là pour réussir à concilier les besoins des entreprises d'avoir de la main-d'œuvre, puis notre besoin, je pense, comme société, de pas niveler par le bas l'éducation de nos futurs, justement, de nos citoyens, puis nos futurs citoyens. Mais il me semble que ça serait une piste intéressante à explorer, ça.
Je pense qu'on va en arriver là parce qu'on a déjà des employeurs. Puis Home Depot, pour ne pas le nommer, qui paie 50% des études postsecondaires de leurs employés. Donc, tu sais, déjà ça, c'est quand même un pas qui est assez important.
Des études postsecondaires.
Oui.
Donc ça veut dire qu'ils sont prêts, dans le fond, à financer des études de jeunes qui ne resteront peut-être pas avec eux. Parce que ça doit être rare, des employés avec un diplôme universitaire chez Home Depot. Peut-être d'un bureau, là, mais
ouais,
c'est
ben,
pas requis pour travailler.
C'est pas requis nécessairement, mais moi, j'ai passé par là. J'ai un diplôme en éducation spécialisée. Ils en ont payé 50%. Là,
OK. Puis quand tu as eu ton diplôme, tu leur as dit « Hey, merci beaucoup, ciao, bye! »
Ils savaient très bien que j'allais quitter éventuellement, mais tu sais... Pour eux, c'est quand même intéressant. OK, je vais payer la moitié de ton bac. Bon, ben pour les trois prochaines années minimum, là.
Tu restes là.
J'ai un X.
Oui. Ouais.
Puis dans la dernière année, là, du 3 ans, cet employé-là, dans un commerce au détail, il risque d'être vraiment performant. Il risque de vraiment...
D'être engagé comme employé.
De connaître sa job, de reconnaître les clients réguliers. Il risque d'être polyvalent. On va peut-être l'avoir formé à 2-3 endroits différents. Donc, il va pouvoir nous sortir de la chenoute un peu. Donc, ça vient gagnant.
C'est du donnant-donnant, finalement.
Puis, tu sais, même Home Depot a bonifié cette pratique-là en disant même, tu vas aller suivre un cours, tu sais, je sais pas moi, t'es un retraité, tu vas aller suivre un cours d'anglais, ben on va te le payer. T'sais, on va le payer le 50% aussi. Puis encore là, ben pour eux autres, par rapport au cours d'anglais, c'est gagnant parce que les clients des États-Unis qui cherchent une quincaillerie, là, ils iront pas chez Canac. Là. Ils vont aller chez Home Depot. Fait que là, ben il y a des employés sur le plancher qui peuvent parler en anglais, donc ça peut être intéressant. Puis tu sais, avec la pénurie de main-d'œuvre, tout le monde dit qu'on est au début, là.
Ben oui, le pic est supposé être en 2030.
C'est ça, tu sais, j'ai pas hâte d'être rendu là.
Falloir garder nos jeunes puis garder nos vieux aussi sur le marché du travail.
Tu sais, si aujourd'hui on a des employeurs qui payent 50% des études, dans 5, 6, 7, 8 ans, ça va être quoi les mesures qu'on va devoir mettre en place pour être attractif? Tu sais, fait qu'éventuellement, on risque de finir par... un employeur qui va dire, bon, ben prenez ce local-là, puis qui va faire venir un prof, puis qui va former les gens...
sur place.
Sur place, effectivement.
En tout cas, s'il y a une université de la drill, là, je suis partant de faire un retour aux études. Là, ça. Je suis all-in.
Là, tu vas apprendre, tu vas développer ta littératie en lisant le manuel d'instruction de la drill, puis finalement, c'est tellement mal traduit que tu vas apprendre n'importe quoi.
Ouais, peut-être.
Hey, mais merci beaucoup pour ce bel échange. Ça a vraiment été un spécial éducation. Ouais. Kevin, si y a un de nos auditeurs ou une de nos auditrices à l'écoute présentement qui dit « Hey, moi, là, ça va pas bien, je suis aux études puis je suis vraiment tentée de tout lâcher », qu'est-ce que à qui ils peuvent s'adresser pour avoir de l'aide?
Là, j'ai un coup de fil à la trajectoire emploi qui est un 8833-7122. Il y a la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne aussi via le site Internet. On a là deux intervenants en réussite éducative qui sont là pour accompagner les gens dans ces défis-là. Pour les personnes qui sont peut-être plus dans un mode de réflexion puis d'aller valider un choix de carrière, on sait que le 1er novembre s'en vient, là, puis c'est les inscriptions pour le cégep et l'université.
Hein, oui, c'est ça.
Donc, on a aussi là, trois présentement. La quatrième s'en vient là, de son congé de maternité, mais on a présentement trois conseillères en orientation qui sont là aussi pour accompagner les gens là, dans cette démarche-là. Les services sont gratuits. Puis, avant de tirer la plug puis de faire un mauvais choix, mais je pense que ça vaut la peine de lâcher un coup de fil puis venir prendre un café avec la gang chez nous.
Oui, une petite réflexion préalable. Hein. C'est tout le temps bon hein, de prendre un petit peu de temps avant.
Ouais, un pas de recul, puis
Puis des fois, d'avoir quelqu'un pour nous aider à faire cette réflexion-là, quelqu'un d'objectif, de neutre, pour nous aider à le prendre, le pas de recul, c'est bon aussi. Puis s'il y a un jeune auditeur ou une jeune auditrice qui est déjà plus à l'école, mais qui aimerait ça y retourner puis en savoir plus au niveau de l'école du milieu, comment on vous contacte?
Bien, ça par téléphone ou sur notre site web écoledumilieu.ca. On peut nous rejoindre directement, là, on nous envoie un message ou sinon c'est dans le 418-741-3477.
Parfait. Ça fait qu'on vous invite. En tout cas, si vous avez été interpellé, on vous invite à vous informer. Ça n'engage à rien, mais vous avez tout à gagner à en savoir plus sur ces deux organismes-là qui sont là à Lévis pour nos citoyens. Fait que, JD, on...
Ben, on va se laisser, Kat, parce que d'après moi, on a manqué de Fred Fortin et de Galaxy pendant les dernières semaines. Fait que j'embarque ça et on finit le show. C'est bon?
Ah, c'est sûr que tu reviens avec ta signature musicale aussi. Juste pour dire qu'à partir de 9h, c'est Hip-Hop Urbain qui va prendre l'antenne. Puis nous, on revient demain à 5h30 parce que le grand show du mercredi, c'est à 5h30 avec JD, Nick, puis peut-être même Stivino. Je crois qu'on va vivre le retour de Stivino aussi cette semaine. C'est notre entrée, c'est notre grosse rentrée, nous aussi. Fait que bonne soirée, puis à demain.
Vous écoutez CGMD 1565.
www.rmc.ca. 833-6800. Facebook pour tous les détails.
Corrupt in the building. CJ MD 96.9 FM. Dogtown in the building. Check this out.
Pour des plats de qualité.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.